Quel cursus avez-vous suivi et comment êtes-vous devenu sous-préfet ?
Je suis juriste de formation, j'ai fait des études de droit et je me suis rapidement spécialisé sur tout ce qui était les problématiques liées à la cohésion sociale, à la prévention de la délinquance et à la sécurité. Et j'ai suivi un troisième cycle universitaire à Lyon, à l'école des commissaires de police, avec des stages dans différents milieux. Ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, je suis entré dans le monde du travail, j'ai travaillé dans le privé pendant 4 ans et dans les collectivités territoriales. J'ai passé des concours, parce que dans l'administration, c'est comme ça, il faut passer des concours et des examens professionnels. Et j'ai décliné progressivement ma carrière. Et après 18 ans dans les collectivités territoriales, j'ai eu l'opportunité, parce qu'il y a des passerelles entre les différentes fonctions publiques, que ce soit fonction publique hospitalière, d'État ou territoriale. Et donc, c'est mon premier poste de sous-préfet. J'ai appris ça il y a très peu de temps, parce que je suis en poste à Castellane depuis le 23 novembre dernier.
Quelles sont les missions d'un sous-préfet et quelles sont les marges d'autonomie par rapport à la hiérarchie ?
Il y a plusieurs types de sous-préfets. Il y a les sous-préfets d'arrondissement, mais il y a aussi des sous-préfets directeurs de cabinet qui travaillent plus sur les questions de sécurité auprès du préfet, ou des sous-préfets chargés de mission en fonction de certaines thématiques, la politique de la ville, le littoral et bien d'autres, la montagne. Un sous-préfet d'arrondissement, on va dire que son cœur de métier, c'est 2 grandes missions. C'est tout ce qui touche à la sécurité des biens et des personnes, alors la gestion éventuelle des crises. J'ai été dernièrement, lorsqu'il y a le camion qui a eu l'accident sur le lac de Castillon, donc ça c'est le rôle du sous-préfet de pouvoir coordonner en lien avec les différents services de l'État, les collectivités territoriales, des entreprises privées pour que ça se passe au mieux. Ça c'est vraiment la première mission. Ensuite, on est là pour être à l'écoute, pour conseiller et accompagner les collectivités territoriales, les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, le conseil départemental, sur des projets qui ont des enjeux sur l'arrondissement. Donc ça, c'est vraiment les 2 missions principales, plus une mission plus protocolaire, c'est la représentation de l'État à diverses cérémonies patriotiques, où j'étais samedi dernier à la passation de commandement au centre de secours. Et c'est surtout, la sécurité, le lien aux collectivités territoriales, pour essayer d'être un facilitateur et accompagner sur les projets. Et ensuite, une partie plus protocolaire, participation aux cérémonies. Et à côté, chaque préfet peut déléguer au sous-préfet d'arrondissement des dossiers. Et notamment, moi j'ai 2 dossiers principaux, que sont la gestion du Verdon et ensuite le maintien des services publics en milieu rural et de montagne. Et là, j'exerce la compétence au nom du préfet sur l'ensemble du département. Et actuellement, il y a des dispositifs qui permettent de maintenir au niveau local des permanences, ce qu'on appelle anciennement les relais de services publics. Et maintenant, ça devient maison de service au public. Et je travaille là-dessus pour essayer de garder le meilleur maillage possible au niveau du territoire avec, oui, des contraintes budgétaires, avec des transferts de compétences au sein de collectivités territoriales. Donc c'est un monde qui est complexe mais très très vivant. Côté autonomie, bien évidemment, mon patron, mon responsable hiérarchique direct, c'est le préfet. On a des réunions toutes les semaines, il nous donne un cadrage, des objectifs. Mais à côté, on doit faire respecter les lois et règlements. Mais comme tout fonctionnaire, y compris les maires qui représentent l'État. Mais au niveau de l'autonomie, il y a un dialogue qui s'instaure, bien sûr, avec monsieur le préfet. Et lorsqu'il y a des dossiers, on fait remonter notre avis. Ma conception du rôle de sous-préfet, c'est d'être un facilitateur et de créer le lien entre l'État, les collectivités territoriales, et puis le milieu associatif local, ou les agriculteurs, les commerçants, les professionnels du tourisme ici, les associations, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est très motivant, parce que aucune journée ne se ressemble. On touche vraiment à tout.
Vous le verrez certainement dans l'avenir, puisque vous venez de rentrer en poste. Vous êtes fréquemment muté géographiquement dans votre fonction. Pour quelles raisons et qui vous nomme ?
Nous sommes nommés par décret du président de la République. Donc c'est très officiel. Pourquoi ? Parce qu'on représente l'État, que ce soit le préfet ou les sous-préfets. Nous sommes nommés en Conseil des ministres et le président prend un décret. Pourquoi Castellane ? C'est qu'il y a une affectation au niveau national. Et comme c'est mon premier poste, je découvre le métier et les sous-préfectures sont classées en 4 catégories. Et donc on débute, ce qui est normal, on fait nos preuves dans les petites sous-préfectures. Petites en termes d'habitants, parce qu'on a une organisation administrative basée en nombre d'habitants. Et ensuite, on change d'affectation. Les mutations, effectivement, c'est un domaine où on est appelé normalement à bouger tous les 2 ans, voire 3 ans. Pourquoi ? Il y a un principe républicain qui remonte à Napoléon, c'est-à-dire pour éviter peut-être de trop connaître, que ce soit les élus locaux, des entrepreneurs, etc. Cette rotation régulière permet de ne pas non plus avoir trop d'attaches, ce qui est une sorte de gage aussi de neutralité. Donc il faut effectivement s'impliquer très très rapidement sur le territoire, connaître les élus, les enjeux, parce que en 2 ans, ce sont des périodes qui sont très très courtes.
Quelles sont vos motivations et qu'aimez-vous dans votre mission ?
Mes motivations, comme je vous l'ai expliqué, après 18 ans dans les collectivités territoriales, c'était de voir autre chose. Je suis quelqu'un qui aime découvrir et ma philosophie, c'est de se respecter, de travailler ensemble avec des objectifs différents, avec des contraintes différentes. Et ce qui me motive en tant que sous-préfet, c'est à ma modeste place, parce que bien évidemment, il y a une hiérarchie, il y a des directives nationales, européennes, il y a des contraintes très différentes. C'est ça, c'est d'être vraiment dans le concret. C'est d'être un facilitateur, de pouvoir réunir les gens quand il y a des problématiques, essayer de trouver la meilleure solution possible. Et sur l'arrondissement, mais comme partout ailleurs, il y a des problématiques qu'on ne peut pas régler. C'est-à-dire que sur les gorges du Verdon, et vous le savez mieux que moi, entre, on va dire, des professionnels liés au tourisme et des associations de protection de l'environnement, on sait que de longue date, ce sont des intérêts qui sont divergents, voire opposés. À côté, il faut trouver un consensus, parce que le développement touristique est important. Mais d'un autre côté, si on le fait n'importe comment, sans être régulé, sans être réglementé, très rapidement, les gens qui viennent pour le côté sauvage vont partir ailleurs. Donc, il faut expliquer tout ça. Mais c'est pas évident, parce que les différents interlocuteurs ont des intérêts qui sont divergents. C'est ça qui me motive, et d'autant plus dans un territoire rural et de montagne, que je connais bien, parce que j'ai passé quand même 20 ans dans un autre département, c'était le Jura, mais je connais bien ces problématiques, effectivement avec des distances quand même très importantes, avec des aléas climatiques importants, on le voit actuellement, une station de ski, quelle qu'elle soit, lorsqu'il y a un bon enneigement, il y a beaucoup moins de soucis. Lorsqu'il y a moins d'enneigement, c'est un petit peu plus tendu, parce que les professionnels, parce que les commerçants, les saisonniers et toutes ces personnes jouent leur saison sur quelques semaines, voire quelques mois. Aucune année ne se ressemble. C'est ce qui me motive et mon intérêt, c'est de vraiment d'être au cœur des sujets. Il n'y a pas de petits sujets, c'est-à-dire qu'en fonction des journées, on peut travailler sur l'intercommunalité qui intéresse beaucoup les élus locaux avec un certain nombre de craintes et de questionnements, ce qui est normal, mais ça peut être ensuite un dossier très précis. Là, je travaille actuellement notamment sur le hameau de Peresque parce qu'il y a des risques de chute de pierre. Comment on peut sécuriser cet accès au village? Comment on peut maintenir une activité économique l'été? Comment on peut maintenir le travail des saisonniers, parce que si on ne sécurise pas ce site, on sera peut-être obligé de réglementer l'accès au village et personne n'y a intérêt. C'est vraiment du concret, mais ensuite comment on fait? Quel financement on trouve? Les intérêts des uns et des autres peuvent être divergents aussi. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est être au cœur d'un territoire.
Avec la particularité sur Castellane d'un afflux très important l'été et d'une réduction des mouvements le reste de l'année.
Tout à fait. C'est un arrondissement qui est très divers et c'est ce qui fait l'intérêt, mais aussi la difficulté en termes de gestion, c'est qu'on a des stations de sport d'hiver, donc qui ont réussi, pour certaines, pas toutes, à se diversifier, donc ils fonctionnent bien hiver, été, et ça peut vivre sans difficulté, parce qu'il y a, à l'intersaison, les gens se reposent, font des travaux, se forment. Par contre, sur Castellane, effectivement, la spécificité, c'est qu'il y a une forte affluence, surtout estivale, sur un temps qui est très réduit, de 2 mois, on va dire vraiment l'été, avec une multiplication par 10 de la population et, comme vous le dites, un afflux de touristes dans les gorges ou à proximité. Ce qui est aussi, en termes d'enjeux derrière, c'est une organisation différente pour les services de sécurité, les services de secours et à côté pour tous les professionnels, avec un Castellane d'hiver qui est très tranquille et l'été que je ne connais pas encore, que je vais découvrir, mais tout le monde me dit, c'est la nuit et le jour. Par contre, je reviens sur quelque chose, c'est comment maintenir malgré tout une activité l'hiver. Alors j'ai quelques idées, il faut que j'en parle aux élus locaux, et ne serait-ce que ce qui est fait sur Castellane au niveau des fenêtres de l'avant. J'ai eu la chance d'arriver fin novembre, et lorsque je n'étais pas en réunion et que j'étais sur Castellane, j'allais systématiquement aux fenêtres de l'avant. C'est une animation qui est sympathique, ça permet de créer de la cohésion, de se connaître les uns les autres, et j'y allais, on me disait, mais vous y allez comment? Bah, j'y vais en tant que Christophe Duverne, j'y vais pas en tant que sous-préfet ou en tant que habitant lambda. Certaines personnes me reconnaissaient, donc c'était plus monsieur le sous-préfet, d'autres ne me connaissaient connaissait pas. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de découvrir les gens qui habitent sur place, c'est de découvrir aussi de nouveaux lieux dans un esprit justement festif. Et ça, c'est important. Ces initiatives-là, faut non seulement les maintenir, mais les développer dans cette période un petit peu plus compliquée où il y a beaucoup moins de monde.
Vous avez été en poste en Seine-Saint-Denis pendant quelques années et vous disiez que vous voyez un rapprochement entre un territoire rural tel que le nôtre et une banlieue dite défavorisée comme peut l'être le 93.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis natif d'un autre parc naturel régional, celui du Morvan. Je suis natif du département de la Nièvre. Et ensuite, mon papa instituteur a dirigé un centre de vacances pendant 20 ans dans le Jura, au Rousse, à 1300 mètres d'altitude. Je connais bien ces problématiques. Et suite à mes études, on m'a proposé un poste en Seine-Saint-Denis. Je ne connaissais pas, il y a les clichés, et je me suis dit, c'est peut-être intéressant de découvrir ce département. Et comme vous le dites, oui, la Seine-Saint-Denis, c'est un département où il y a des difficultés sociales qui sont plus accentuées qu'ailleurs. Il y a des problématiques de délinquance, il ne faut pas le nier, mais en Seine-Saint-Denis, comme dans d'autres territoires, il y a une urbanisation. On a des tours, on a des espaces de parking, de dalles, c'est quand même une architecture très particulière. Ça, c'est, on va dire, le côté un peu négatif. Par contre, le côté positif, c'est que les gens dans les quartiers ont une solidarité qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, si ce n'est dans les territoires qui sont très ruraux. Et c'est là où je fais un parallèle. C'est lorsque les conditions d'existence sociale, économique, autres, ou des territoires qui sont excentrés, qui ont des aléas climatiques particuliers, ça nécessite à avoir plus de cohésion, à être plus unis. Et donc, c'est souvent dans ces territoires, urbains comme ruraux, que l'on voit qu'il y a des initiatives liées à la citoyenneté, au bien vivre ensemble, des choses des fois toutes simples à mettre en place, mais qui montrent qu'il y a une solidarité qu'on ne retrouve peut-être pas partout ailleurs.
Votre première sortie officielle sur Castellane s'est faite dans de tristes circonstances, puisque vous avez déposé une gerbe devant le monument aux morts. Pour les victimes des attentats de Paris, quel a été votre ressenti ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie protocolaire, chaque fois qu'il y a un préfet ou un sous-préfet qui arrive sur un arrondissement ou un département, il y a dépôt de gerbes au monument aux morts. C'est simplement pour se rappeler effectivement des personnes qui ont laissé leur vie durant les guerres, durant les attentats, pour permettre que la France reste un pays libre avec la devise républicaine. Donc ça, c'est, on va dire, un aspect protocolaire. À côté, ça tombe à une période où, malheureusement, l'année 2015 a été endeuillée, que ce soit au mois de janvier ou au mois de novembre, sur Paris ou la banlieue, avec des actes odieux de terrorisme. Donc c'était aussi l'occasion, de par ce dépôt de gerbes et de la minute de silence, d'avoir une pensée pour nos aïeux qui ont combattu pendant les guerres, mais aussi pour les victimes plus récentes de ces actes de terrorisme.
Quelle porte de sortie voyez-vous par rapport à cette situation ?
Je l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadé que dans une société où on divise les gens pour X raisons, les terroristes, les fanatiques qui frappent en France, mais on l'a vu ailleurs, au Burkina Faso, le message que je veux faire passer, c'est il faut être conscient, nous sommes vraiment en période de guerre. Sauf que c'est une guerre que l'on n'a jamais connue, parce que traditionnellement, il y a un théâtre des opérations où les armées traditionnelles s'affrontent. Première, Seconde Guerre mondiale, même d'autres guerres depuis. Alors que là, c'est un conflit qui est sournois parce que l'ennemi est invisible sur le territoire. Il est visible au Moyen-Orient parce qu'il y a une guerre traditionnelle qui se déroule en Syrie, en Irak, où notre pays est impliqué à côté d'une coalition. Par contre, dans nos territoires, et souvent on me pose la question, oui, mais Castellane, oui, mais en termes de risque, malheureusement, le terrorisme est aveugle. Il peut frapper n'importe où. Il va cibler, bien sûr, des lieux où médiatiquement derrière, il aura des retombées pour lui. Par contre, oui, il faut que tout le monde sache, on est en état de guerre, donc il faut être vigilant et il faut être d'autant plus responsable et citoyen. Ne pas faire d'amalgame, parce qu'effectivement, ces gens-là mettent en avant la religion. Or, on sait très bien que toute religion prône la paix, l'amour, un certain respect des uns et des autres. Et eux se fondent sur des préceptes religieux, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment la haine, la mainmise d'un petit groupe qui a des intérêts financiers et autres, c'est une délinquance qui est organisée, hein. Et on prend d'autres arguments pour essayer d'imposer sa loi. Donc non, on est en état de guerre, mais à côté, il faut dire oui, on est dans une période de résistance où il appartient à chacun de ne pas tomber dans le jeu de ces extrémistes. Rassemblons-nous, essayons d'être plus tolérants. Il ne faut pas créer d'amalgame vis-à-vis de la communauté musulmane, vis-à-vis d'autres communautés aussi, parce que là, effectivement, ces gens-là auront réussi. En cette période de troubles où il y a le terrorisme, où il y a une crise économique, où des personnes se posent des questions sur les valeurs, sur la vie en commun, soyons attentifs et vigilants, mais à côté, continuons de vivre et surtout, gardons ce respect pour les uns, cette ouverture, cette compréhension. Et ça, c'est à chacun d'entre nous de le décider. Ça se décrète pas. Et même si je fais un message comme ça aujourd'hui, même si le gouvernement fait ce type de message, il faut que chacun prenne conscience que, unis, tous ensemble, solidaires, on arrivera à construire, à sortir du marasme économique, financier, des difficultés liées au terrorisme. On y arrivera. Ce sera peut-être plus ou moins long, mais on y arrivera. Alors que si, au contraire, on se divise, on rejette la faute sur l'autre, on devient encore plus intolérant, on fait jouer des questions de morale, religieuse ou autre, on n'y arrivera pas. Et là, je peux être pessimiste.
Avez-vous un message particulier à adresser aux Castellanaises et aux Castellanais ?
Oui, c'est la période de vœux. Donc lorsque je suis invité aux vœux des élus ou d'autres institutions, j'écoute. Et le message que je veux faire passer, c'est remercier très sincèrement les Castellanais et les Castellanaises pour leur accueil. Parce que lorsque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été aux fenêtres de l'avant, j'ai été tout de suite très bien intégré. Quand on est à l'écoute du territoire, quand on est accessible, généralement ça se passe bien. Donc le message, c'est je serai à votre écoute. À côté, je suis le représentant de l'État, ça fait partie de mon travail d'affirmer l'autorité de l'État et que dans certains dossiers liés à la sécurité, liés à la création peut-être de certaines formes d'intolérance ou de repli, je serai intransigeant, parce que je pense que l'intérêt général doit primer. Mais je suis là pour écouter tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, les représentants du tourisme, les représentants d'activités diverses et variées, les représentants d'associations liées à la protection de l'environnement, mais aussi les agriculteurs qui rencontrent des difficultés. C'est mon travail. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir que je pense toujours que, en exprimant nos intérêts, même s'ils sont divergents, en faisant part de nos contraintes, on se comprend mieux. Et que je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. C'est-à-dire que, à un moment, quand chacun campe sur ses positions, c'est constructif pour personne. Et qu'il faut savoir faire des compromis. Mais c'est vrai au niveau professionnel, c'est vrai au niveau familial ou personnel. La vie est ainsi faite. S'ouvrir aux autres, les écouter, on peut ne pas être d'accord et essayer de trouver le meilleur compromis possible, en sachant que le meilleur compromis aujourd'hui n'était peut-être pas le meilleur il y a 10 ans et ne sera peut-être pas le meilleur. On essaye de tendre vers ce qui est le mieux pour l'intérêt général. Et vraiment, c'est pas un terme comme ça, souvent galvaudé, l'intérêt général, le service public. J'ai été dans le privé, je sais ce que c'est que le privé, et si j'ai fait le choix de l'administration, c'est pour ça. Et plus aujourd'hui que jamais, au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, d'affirmer un certain nombre de choses, pour pas que justement tout éclate et que ça soit des individualismes qui prennent place et que finalement le tissu social se désagrège. Donc c'est ça, je suis à l'écoute, je serai ferme sur certains dossiers, mais j'accueille avec plaisir les personnes qui veulent me rencontrer.